Chapitre 16. La confusion. Il faut en France beaucoup de fermeté et une grande étendue d'esprit pour se passer des charges et des emplois et consentir ainsi à demeurer chez soi à ne rien faire. Personne presque n'a assez de mérite pour jouer ce rôle avec dignité, ni assez de fonds pour remplir le vide du temps sans ce que le vulgaire appelle les affaires. Il ne manque cependant à l'oisiveté du sage qu'un meilleur nom et que méditer, parler, lire et être tranquille s'appela travailler. La Bruyère. Pendant cette même matinée dont nous avons vu les effets divers chez Gaston d'Orléans et chez la reine, le calme et le silence de l'étude régnaient dans un cabinet modeste d'une grande maison voisine du palais de justice. Une lampe de cuivre d'une forme gothique y luttait avec le jour naissant et jetait sa lumière rougeâtre sur un amas de papiers et de livres qui couvrait une grande table. Elle éclairait le buste de l'hôpital, celui de Montaigne, du président de Toux l'historien et du roi Louis XIII. Une cheminée, assez haute pour qu'un homme pût y entrer et même s'y asseoir, était remplie par un grand feu brûlant sur d'énormes chenets de fer. Sur l'un de ces chenets était appuyé le pied du studieux de Toux, qui, déjà levé, examinait avec attention les œuvres nouvelles de Descartes et de Grotius. Il écrivait sur son genou ses notes sur ses livres de philosophie et de politique, qui faisaient alors le sujet de toutes les conversations. Mais en ce moment, les méditations métaphysiques absorbaient toute son attention. Le philosophe de la Touraine enchantait le jeune conseiller. Souvent, dans son enthousiasme, il frappait sur le livre en jetant des cris d'admiration. Quelquefois, il prenait une sphère placée près de lui et, la tournant longtemps sous ses doigts, s'enfonçait dans les plus profondes rêveries de la science. Puis, conduit par leur profondeur à une élévation plus grande, se jetait à genoux tout à coup devant le crucifix placé sur la cheminée, parce qu'aux bornes de l'esprit humain, il avait rencontré Dieu. En d'autres instants, il s'enfonçait dans les bras de son grand fauteuil, de manière à y être presque assis sur le dos, et mettant ses deux mains sur ses yeux, suivait dans sa tête la trace des raisonnements de René Descartes depuis cette idée de la première méditation. Supposons que nous sommes endormis et que toutes ces particularités, savoir que nous ouvrons les yeux, remuons la tête, étendons le bras, ne sont que de fausses illusions. Jusqu'à cette sublime conclusion de la troisième, il ne reste à dire qu'une chose, c'est que, semblable à l'idée de moi-même, celle de Dieu est née et produite avec moi dès lors que j'ai été créé. Et certes, on ne doit pas trouver étrange que Dieu, en me créant, ait mis en moi cette idée pour être comme la marque de l'ouvrier empreinte sur son ouvrage. Ces pensées occupaient entièrement l'âme du jeune conseiller lorsqu'un grand bruit se fit entendre sous ses fenêtres. Il crut que le feu d'une maison excitait ses cris prolongés et se hâta de regarder vers l'aile du bâtiment occupé par sa mère et ses sœurs. Mais tout y paraissait dormir, et les cheminées ne laissaient même échapper aucune fumée qui attestât le réveil des habitants. Il en bénit le ciel, et, courant à une autre fenêtre, il vit le peuple dont nous connaissons les exploits se presser vers les rues étroites qui mènent au quai. Après avoir examiné cette cohue de femmes et d'enfants, l'enseigne ridicule qui les guidait et les grossiers travestissements des hommes. « C'est quelque fête populaire ou quelque comédie de carnaval, » se dit-il. Et s'étant placé de nouveau au coin de son feu, il prit un grand almanach sur la table et se mit à chercher avec beaucoup de soin quels saints ont fêté ce jour-là. Il regarda la colonne du mois de décembre et, trouvant au quatrième jour de ce mois le nom de Sainte-Barbe, il se rappela qu'il venait de voir passer des espèces de petits canons et caissons, et, parfaitement satisfait de l'explication qu'il se donnait à lui-même, se hâta de chasser l'idée qui venait de le distraire et se renforça dans sa douce étude, se levant seulement quelquefois pour aller prendre un livre au rayon de sa bibliothèque et, après y avoir lu une phrase, une ligne ou seulement un mot, le jeter près de lui, sur sa table ou sur le parquet, encombré ainsi de papiers qu'il se gardait bien de mettre à leur place, de crainte de rompre le fil de ses rêveries. Tout à coup, on annonça, en ouvrant brusquement la porte, un nom qu'il avait distingué parmi tous ceux du barreau et un homme que ses relations dans la magistrature lui avaient fait connaître particulièrement. « Et par quel hasard, à 5 heures du matin, vois-je entrer M. Fournier ? » s'écria-t-il. « Y a-t-il quelques malheureux à défendre, quelques familles à nourrir des fruits de son talent ? A-t-il quelque erreur à détruire parmi nous, quelque vertu à réveiller dans nos cœurs ? Car ce sont là de ses œuvres accoutumées. Vous venez peut-être m'apprendre quelque nouvelle humiliation de notre Parlement ? Hélas, les chambres secrètes de l'Arsenal sont plus puissantes que l'antique magistrature contemporaine de Clovis. Le Parlement s'est mis à genoux, tout est perdu, à moins qu'il ne se remplisse tout à coup d'hommes semblables à vous. « Monsieur, je ne mérite pas vos éloges, » dit l'avocat en entrant, accompagné d'un homme grave et âgé, enveloppé comme lui d'un grand manteau. « Je mérite au contraire tout votre blâme, et j'en suis presque au repentir, ainsi que monsieur le comte du Lude, que voici. Nous venons vous demander asile pour la journée. » Asile ? Et contre qui ? Dit de tout en le faisant asseoir. Contre le plus bas peuple de Paris qui nous veut pour chef et que nous fuyons. Il est odieux. La vue, l'odeur, l'ouïe et le contact surtout sont par trop blessés, dit M. Dulude avec une gravité comique. C'est trop fort. Ah ah ! Vous dites donc que c'est trop fort ? Dit de tout très étonné, mais ne voulant pas en faire semblant. « Oui, reprit l'avocat, vraiment, entre nous, monsieur le grand va trop loin. »« Oui, il pousse trop vite les choses, il fera avorter nos projets, » ajouta son compagnon. « Ah ah, vous dites donc qu'il va trop loin ?» répondit, en se frottant le menton, de tout toujours plus surpris. Il y avait 3 mois que son ami Saint-Marc ne l'était venu voir, et lui, sans s'inquiéter beaucoup, le sachant à Saint-Germain, fort en faveur et ne quittant pas le roi, était très reculé pour les nouvelles de la cour. Livré à de graves études, il ne savait jamais les événements publics que lorsqu'on l'y obligeait à force de bruit. Il n'était au courant de la vie qu'à la dernière extrémité, et donnait souvent un spectacle assez divertissant à ses amis intimes par ses étonnements naïfs, d'autant plus que, par un petit amour-propre mondain, il voulait avoir l'air de s'entendre aux choses publiques et tenter de cacher la surprise qu'il éprouvait à chaque nouvelle. Cette fois, il était encore dans ce cas, et à cet amour-propre se joignait celui de l'amitié. Il ne voulait pas laisser croire que Saint-Marc y eût manqué à son égard, et, pour l'honneur même de son ami, voulait paraître instruit de ses projets. « Vous savez bien où nous en sommes ?» continua l'avocat. « Oui, sans doute, poursuivez. Lié comme vous l'êtes avec lui, vous n'ignorez pas que tout s'organise depuis 1 an ?»« Certainement, tout s'organise, mais allez toujours. Vous conviendrez avec nous, monsieur, que monsieur Legrand est dans son tort. » « Ah ah, c'est selon. Mais expliquez-vous, je verrai. » « Eh bien, vous savez ce qu'il était convenu à la dernière conférence dont il vous a rendu compte ?»« Ah, c'est-à-dire, pardonnez-moi, je vois bien à peu près, mais remettez-moi sur la voie. »« C'est inutile. Vous n'avez pas oublié sans doute ce que lui-même nous recommanda chez Marion Delorme. » « De n'ajouter personne à notre liste, » dit M. Dulude. « Oh oui, oui, j'entends, » dit de tout, Cela me semble raisonnable, fort raisonnable en vérité. Eh bien, poursuivit Fournier, c'est lui-même qui a enfreint cette convention. Car ce matin, outre les drôles que ce furet de Gondy nous a amenés, on a vu je ne sais quel vagabond capitant qui, pendant la nuit, frappait à coups d'épée et de poignard des gentilshommes des deux parties en criant à tue-tête « À moi, Dobijou, tu m'as gagné 3 000 ducats, voilà 3 coups d'épée. À moi, La Chapelle, j'aurai 10 gouttes de ton sang en échange de mes 10 pistoles. » Et je l'ai vu, de mes yeux, attaquer ces messieurs et plusieurs autres encore des deux parties, assez loyalement, il est vrai, car il ne les frappait qu'en face et bien en garde, mais avec beaucoup de bonheur et une impartialité révoltante. Oui, monsieur, et j'allais lui en dire mon avis, reprit Dulude, quand je l'ai vu s'évader dans la foule comme un écureuil et riant beaucoup avec quelques inconnus à figure basanée. Je ne doute pas cependant que monsieur de Saint-Marne l'ait envoyé, car il donnait des ordres à cet Ambrosio que vous devez connaître, ce prisonnier espagnol, ce vaurien qu'il a pris pour domestique. Ma foi, je suis dégoûté de cela, et je ne suis point fait pour être confondu avec cette canaille. Ceci, monsieur, reprit Fournier, est fort différent de l'affaire de Loudun. Le peuple ne fit que se soulever sans se révolter réellement. Dans ce pays, c'était la partie saine et estimable de la population, indignée d'un assassinat et non animée par le vin et l'argent. C'était un cri jeté contre un bourreau, cri dont on pouvait être l'organe honorablement, et non pas ces hurlements de l'hypocrisie factieuse et d'un amas de gens sans aveu, sortis de la boue de Paris et vomis par ses égouts. J'avoue que je suis très las de ce que je vois, et je suis venu aussi pour vous prier d'en parler à Monsieur Legrand. » De Thou était fort embarrassé pendant ces deux discours et cherchait en vain à comprendre ce que Saint-Marc pouvait avoir à démêler avec le peuple qui lui avait semblé se réjouir. De notre côté, il persistait à ne pas vouloir faire l'aveu de son ignorance. Elle était totale cependant, car la dernière fois qu'il avait vu son ami, il ne parlait que des chevaux et des écuries du roi, de la chasse aux faucons et de l'importance du grand veneur dans les affaires de l'État, ce qui ne semblait pas annoncer de vastes projets où le peuple put entrer. Enfin, il se hasarda timidement à leur dire « Messieurs, je vous promets de faire votre commission. En attendant, je vous offre ma table et des lits pour le temps que vous voudrez. Mais pour vous dire mon avis dans cette occasion, cela m'est difficile. Ah ça, dites-moi un peu, on n'a donc pas fêté la Sainte Barbe ?»« La Sainte Barbe ?» dit Fournier. « La Sainte Barbe ?» dit Dulude. « Oui, oui, on a brûlé de la poudre. C'est ce que veut dire Monsieur de Thou, » reprit le premier en riant. « Ah, c'est fort drôle, fort drôle. Oui, effectivement, je crois que c'est aujourd'hui la Sainte Barbe. » Cette fois, De Thou fut confondu de leur étonnement et réduit au silence. Pour eux, voyant qu'ils ne s'entendaient pas avec lui, ils prirent le parti de se taire d'eux-mêmes. Ils se taisaient encore lorsque la porte s'ouvrit à l'ancien gouverneur de Saint-Marc, l'abbé Quillet, qui entra en boitant un peu. Il avait l'air soucieux et n'avait rien conservé de son ancienne gaieté dans son air et ses propos. Seulement, son regard était vif et sa parole très brusque. « Pardon, pardon, mon cher De Thou, si je vous trouble si tôt dans vos occupations. C'est étonnant, n'est-ce pas, de la part d'un goutteux? Ah, c'est que le temps s'avance. Il y a 2 ans, je ne boitais pas. J'étais au contraire fort ingambe lors de mon voyage en Italie. Il est vrai que la peur donne des jambes. » En disant cela, il se jeta au fond d'une croisée et, faisant signe à De Thou d'y venir lui parler, il continua tout bas. « Que je vous dise, mon ami, à vous qui êtes dans leurs secrets, je les ai fiancés il y a 15 jours, comme ils vous l'ont raconté. » « Oui, vraiment ?» dit le pauvre De Thou, tombant de Charybde en Scylla dans un autre étonnement. « Allons, faites donc le surpris. Vous savez bien qui ?» continua l'abbé. « Mais, ma foi, je crains d'avoir eu trop de complaisance pour eux, quoique ces deux enfants soient vraiment intéressants par leur amour. J'ai peur de lui plus que d'elle. Je crois qu'il fait des sottises, d'après l'émeute de ce matin. Nous devrions nous consulter là-dessus. » Mais, dit De Thou très gravement, je ne sais pas d'honneur ce que vous voulez dire. Qui donc fait des sottises ? Allons donc, mon cher, voulez-vous faire encore le mystérieux avec moi ? C'est injurieux, dit le bonhomme, commençant à se fâcher. Non, vraiment ? Mais qui avez-vous fiancé ? Encore ? Fi donc, monsieur ! Mais quelle est donc cette émeute de ce matin ? Vous vous jouez de moi, je sors, dit l'abbé en se levant. Je vous jure que je ne comprends rien à tout ce qu'on me dit aujourd'hui. Est-ce monsieur de Saint-Marc ? À la bonne heure, monsieur, vous me traitez en cardinaliste. Eh bien, quittons-nous, dit l'abbé Quillet furieux. Et il reprit sa canne à béquille et sortit très vite, sans écouter De Thou, qui le poursuivit jusqu'à sa voiture en cherchant à l'apaiser, mais sans y réussir, parce qu'il n'osait nommer son ami sur l'escalier devant ses gens et ne pouvait s'expliquer. Il eut le déplaisir de voir s'en aller son vieux abbé, encore tout en colère, et lui cria « À demain !» pendant que le cocher partait et sans qu'il y répondît. Il lui fut utile, cependant, d'être descendu jusqu'au bas des degrés de sa maison, car il vit des groupes hideux de gens du peuple qui revenaient du Louvre et fut à même alors de juger de l'importance de leurs mouvements dans la matinée. Il entendit des voix grossières crier comme en triomphe. « Elle a paru tout de même, la petite reine ! Vive le bon duc de Bouillon qui nous arrive ! Il a 100 000 hommes avec lui, qui viennent en radeau sur la Seine ! Le vieux cardinal de La Rochelle est mort ! Vive le roi ! Vive Monsieur le Grand !» Les cris redoublèrent à l'arrivée d'une voiture à 4 chevaux, dont les gens portaient la livrée du roi, et qui s'arrêta devant la porte du conseiller. Il reconnut l'équipage de Saint-Marc, à qui Ambrosio descendit ouvrir les grands rideaux, comme les avaient les carrosses de cette époque. Le peuple s'était jeté entre le marchepied et les premiers degrés de la porte, de sorte qu'il lui fallut de véritables efforts pour descendre et se débarrasser des femmes de la halle qui voulaient l'embrasser en criant « Te voilà donc, mon cœur, mon petit ami !» Tu arrives donc, mon mignon ? Voyez comme il est joli, cet amour avec sa grande collerette. Ça ne vaut-il pas mieux que cet autre, avec sa moustache blanche ? Viens, mon fils, apporte-nous du bon vin, comme ce matin. » Henri Défiat serra, en rougissant, la main de son ami, qui se hâta de faire fermer ses portes. « Cette faveur populaire est un calice qu'il faut boire, » dit-il en entrant. « Il me semble, répondit gravement De Thou, que vous le buvez même jusqu'à la lie. » « Je vous expliquerai ce bruit, » répondit Saint-Marc un peu embarrassé. « À présent, si vous m'aimez, habillez-vous pour m'accompagner à la toilette de la reine. » « Je vous ai promis bien de l'aveuglement, » dit le conseiller. « Cependant, il ne peut se prolonger plus longtemps en bonne foi. » « Encore une fois, je vous parlerai longuement en revenant de chez la reine. Mais dépêchez-vous, il est 10 heures bientôt. »« J'y vais avec vous, » dit De Thou en le faisant entrer dans son cabinet où se trouvaient le comte du Lude et Fournier. Et il passa lui-même dans un autre appartement.